Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Monsieur le Président, bonsoir.
Calme ta joie là. Bois 42 whisky coca, profitez-en quand même. Parce que...
Vous répondez aux invitations de nos rédactions.
La phrase, c'est ça qui me plaît, que ça qui me plaît. La phrase.
Comment pouvez-vous être convaincu qu'on obtient la paix par un acte de guerre?
En fait, on va suffire un peu et ça va redémarrer.
Mais vous ne nous parlez pas trop de paix, d'initiative que vous allez prendre.
Oui, vous parlez de quoi? De moi, de tout, je sais pas moi. On a rien fait.
Moi, alors... j'aimerais savoir si vous préparez un sommet international.
Merde! On se
prend
pour qui?
Eh oui.
Merci, monsieur l'homme.
Très beau montage.
Alors, on va parler de la Coupe du Monde de rugby. Le 21 septembre, à 16h15, Vincent, la France affronte l'Argentine. C'est le premier match du Mondial et c'est un match capital. Alors, si on considère que l'Angleterre est favorite de ce groupe, évidemment, c'est presque un match couperet dans ce groupe C. Et les Argentins sont de retour en grande forme. Le risque est là, être éliminé en poule pour la première fois de notre histoire en Coupe du Monde. Les Bleus sont-ils en danger? Appelez-nous au 32-16 ou laissez vos commentaires sur Direct Studio ou Twitter. Jean-François Patureau est avec nous. Bonjour Jeff.
Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Monsieur Jeff.
Bonjour Jean-François.
Jeff, il va tout faire, il va faire la préparation à la Coupe du Monde, oui. Le top 14, la Coupe d'Europe.
Et il va peut-être jouer.
Prends jamais de vacances.
Non, ça, j'ai pas le droit, ça.
C'est le journaliste qui perd le plus en ce moment, non? Ah, cette équipe de France.
A priori, ouais. Ouais.
Alors, Jeff, on parle de la franchise des Jaguars dans le Super Rugby. Ils sont en finale, donc ils affronteront les Crusaders. En gros, on peut dire que c'est 90% de la sélection argentine. C'est pour ça qu'on a un bon point de repère avec les Jaguars. L'Argentine qu'on a battue en novembre et celle qu'on risque de retrouver au mois de septembre, ça va être, il va y avoir deux, trois différences.
C'est pas tout à fait pareil, c'est ça, Pierre. Effectivement, la dynamique a pas mal changé depuis ce 17 novembre 2018 et cette victoire du 15 de France à Lille contre l'Argentine, une victoire plutôt facile, 28-13, avec notamment un doublé de Teddy Thomas que Vincent aime beaucoup et un essai de Guillaume Guirado. Les Pumas étaient alors rincés, épuisés après une longue saison. Ils avaient raté leur tournée européenne, que ce soit en France, mais aussi dans les îles britanniques. Mais attention, depuis, le rugby argentin est en pleine forme, en tout cas les Jaguars, et ce n'est pas franchement une bonne nouvelle, car tu l'as dit Pierre, c'est environ 90% de l'équipe. J'ai regardé au total sur les 46 joueurs retenus pour préparer la Coupe du Monde, il y en a 37 sur les 46 qui évoluent dans cette équipe entraînée par Gonzalo Quesada. Autant dire qu'ils se connaissent par cœur avec de vrais automatismes. En fait, pour schématiser, c'est un peu comme si les Toulousains, les Clermontois, les Rochelais, les Toulonnais, les Racingmen jouaient tous dans la même équipe tout au long de l'année, ce qui n'est pas forcément rassurant. Surtout, les Argentins ont su combiner les objectifs de cette équipe des Jaguars et la sélection en vue de la Coupe du Monde avec deux staffs bien différentes mais qui travaillent main dans la main. On pense notamment à Gonzalo Quesada et Mario Ledesma avec un objectif simple, gagner pour les Jaguars. Ce sera une première finale Super Rugby, tu l'as dit ce week-end, face aux Crusaders. Et surtout, pour la sélection de Mario Ledesma, un match tant attendu le 21 septembre contre l'équipe de France.
Alors Vincent, je sais que tu es éternellement optimiste, ce qui est très bien, c'est une qualité. Est-ce que tu commences à t'en faire pour l'équipe de France? Est-ce que tu penses qu'on peut sortir en poule?
Il y a toujours un risque, surtout dans, comme tu le dis, les Argentins sont très bons, les Anglais sont très bons, nous on a encore fait un tournoi assez moribond. Bien entendu que si je te disais qu'il n'y a aucune chance qu'on soit éliminé en phase de poule, je serais un menteur. De toute façon, pour personne, même les Anglais peuvent se retrouver à la trapinette.
Mais il y a que toi,
les Anglais peuvent être pas
dans le passer. Groupe du Pays de Galles et d'Australie pour sortir en 2015.
Ils peuvent passer à la trapinette aussi là.
À la maison.
Mais toi, sinon on tourne bien ici avec le changement qu'il y a eu, ça repart très vite. Les jeunes, c'est pas 3-4 mecs te changent des fois la physionomie. Mais j'ai sport, Pierrot.
Pourquoi
mais
tu parles, Pierrot?
Il rigole, voilà.
Non,
voilà.
Parce que tu dis avec les changements qu'il y a eu, comme si ça y est, c'était reparti. Mais qu'on n'a pas joué un match depuis.
Mais oui, mais ce que je veux te dire, on est bien obligé d'avoir de l'euphorie et de la passion et de l'espoir. Qu'est-ce que je veux te dire? Je ne vais pas te dire, non, avec l'équipe qu'on a, on ne va pas sortir. Il y a des chances qu'on sorte. Il y a des chances qu'on sorte dans une poule très difficile. Moi, je pense qu'il y a vraiment des chances qu'on sorte. Mais comme je te dis, regarde, les Argentins peuvent être éliminés. Les Anglais peuvent être éliminés. Tu sais, le Coupe du Monde, c'est très particulier. on ne sait pas. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop la cote, bien entendu, par rapport à nos derniers matchs. Bah, on n'est pas favori pour gagner la Coupe du Monde. Par contre, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'ai de l'espoir et l'espoir fait vivre. Pierrot, t'inquiète de la vie, Pierrot.
Il y a de l'espoir.
Les cheminots.
Voilà, mais Denis, j'ai l'impression que ce débat on le fait tout le temps et qu'il dit la même chose tout
oui,
le temps.
Parce que j'en ai marre de voir une
l'histoire de la Coupe du Monde parle d'elle-même. Il y a toujours des surprises, sauf que c'est une Coupe du Monde, il y a un contexte différent, les équipes sont en forme et que aujourd'hui, on a des doutes évidemment par rapport au match qu'on vient de disputer pendant le tournoi. Mais après, on a du talent dans cette équipe de France. Il y a du talent. Il y a quand même une équipe pour réussir et pour battre les Argentins.
On n'a pas tous les postes non plus.
Je ne peux pas croire qu'on puisse
aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben ça dépend aujourd'hui tu perds aujourd'hui mais tu gagneras en septembre peut-être. Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même l'arrivée de Fabien Galthié qu'il faut pas relativiser dans la mesure où il n'est pas venu faire du tourisme.
C'était l'adjoint comme un autre,
oui,
Fabien.
C'est pas l'adjoint. C'est très bien que Jacques Brunel, il parle beaucoup à lui, communique beaucoup à lui. Il va mettre une stratégie en place avec Jacques. Il y aura sûrement une organisation
en charge de l'animation offensive
beaucoup plus performante. Et après, l'Argentin, une fois que tu les déstabilises défensivement, ils sont prenables comme les autres. Faut arrêter de se faire une montagne des Argentins.
D'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, les Argentins, à l'instar des nations celtes il y a 10 ans, se sont réorganisés pour que leur équipe nationale redevienne compétitive. Elle l'était en 2007, n'oublions pas qu'ils nous avaient battu ici à Coupe du Monde.
Deux fois.
Après, ils ont traversé un petit peu le désert.
Ils ont perdu
pendant quelques années, ils ont perdu. C'était une grosse génération en 2007. Et puis, après, ils se sont réorganisés avec cette équipe donc des Jaguars, qui, effectivement, représente 90% de l'équipe d'Argentine, qui évolue 6 mois de l'année ensemble. Ça s'appelle s'organiser. Voilà. Mais, rappelez-vous, et je le dis souvent, entre 2003 et 2007, l'équipe de France que j'ai entraînée, on a joué 20 matchs dans le tournoi Destination, 4 tournois. On a gagné 17 fois, on a perdu 3 matchs. On a gagné 3 fois le tournoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réorganisés, les Irlandais, les Écossais, les Gallois. Et maintenant, on les bat plus. Et pendant que nous, on a fait venir et des étrangers, encore plus étrangers, etc. Mais eux, ils se sont réorganisés dans l'intérêt de leur équipe nationale. C'est ce qu'ont fait les Argentins, tout simplement. Voilà.
Cette franchise, elle a 3 ans d'existence.
Oui, aujourd'hui, donc, Bernard. Mais c'est ce qu'ils ont fait, donc bravo à eux. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la Ligue nationale de rugby, qui elle-même a décidé qu'il y ait moins de joueurs non gifs sur les feuilles de match en moyenne durant de l'année. Donc tout ça évolue bien, parce qu'à un certain moment, effectivement, on ne peut plus avoir une équipe nationale qui ne gagne pas. Alors, donc, il faut se réorganiser. Sur le court terme, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Les Jaguars, c'est une très très bonne équipe. D'accord? Mais qui est-ce que la France ne peut pas battre? L'Argentine, l'Angleterre, le Pays de Galles, etc. J'en sais rien. Je ne dis pas qu'on va les battre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera compétitif.
Maryse.
Moi, je trouve que tu tiens un discours de président. Je ne vais sûrement pas te le reprocher parce qu'il paraît que tu es président. Donc, ça tombe bien.
Oui.
Mais en même temps, donc là, on est en train effectivement de voir la réorganisation de l'équipe et vers quoi on va. Et c'est plutôt positif, je trouve. Mais on est en train de parler sur du moyen terme à long terme. Maintenant, sur ce qui nous attend là tout de suite, effectivement, tu as l'impression de te répéter parce que vous dites sans arrêt la même chose. Vous dites, il y a Galthié qui arrive et tout va changer.
Non, je n'ai pas dit que tout a changé.
Tu as compris, ça a amélioré le système. Je dis va, tout va.
Ça peut aller mieux.
Ça a changé. Mais si on enlève ça, parce que finalement c'est une inconnue, donc on ne sait pas si la sauce va prendre ou pas, on le saura bientôt, sera fixé bientôt si on enlève ça, et qu'on voit simplement ce que c'est qu'une Coupe du Monde. Vous nous l'avez dit aussi, vous nous l'avez assez répété lors des précédentes Coupes du Monde, même si on a des équipes qui quelquefois sont totalement perdues pendant 1, 2, 3 ans, une Coupe du Monde, ça se prépare vraiment sur les dernières semaines, et ça change du tout au tout la physionomie. Et c'est la préparation et la façon dont ça va se préparer dans les semaines finales qui va faire que la campagne va être réussie ou pas. Le groupe, on le sait, on sait à quoi il ressemble. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a l'impression de parler en l'air parce qu'on se réfère toujours à ce qui s'est passé dans ces 2 dernières années, les défaites qu'on a eues, depuis combien de temps on n'a pas gagné, etc. Alors que finalement, ça, je suis convaincue, mais je parle sous votre contrôle et vous allez me dire peut-être que je me gourre complètement, qu'on peut le mettre complètement de côté parce que tout recommence dans quelques
temps. Je te gourre.
Qui
c'est ce que tu disais tout le temps.
Bernard.
Et que ça se joue sur les deux derniers matchs.
Moi j'ai une question à poser à Bernard parce qu'on a oublié quand même, il est président aujourd'hui, mais c'était un des meilleurs coachs de l'équipe de France. qui était un grand coach.
Alors vous voulez pas répondre à ma question d'abord?
Ouais. Mais avec ça, t'as dit tu te gourres.
Non, bien sûr que c'est. Mais bien entendu, Maryse, que si tu veux me dire, c'est sur les derniers mois qu'on va voir. D'abord, faut pas te blesser. D'abord, faut pas. C'est un sport
sur
où il y a quand même beaucoup de casses. Non, faut sortir. Là, par contre, c'est un peu plus de 3 matchs parce qu'il faut sortir quand même des poules.
Oui. Donc, mais 3 matchs,
après, ça peut aller très vite. Tu prends un navet des fois, comme c'est arrivé en quart de finale. Et puis après, voilà, le gros problème. Si tu me dis on va se qualifier, je te dis oui, il y a des chances. Tu me dis on va être champion du monde, je te dis il y en a aucune. Pourquoi? Parce que t'as Mike Tyson. Je te l'ai dit. En rugby, t'as pas de chance. T'as Mike Tyson dans ton sport. Et quand t'as Mike Tyson,
avant de parler de Mike Tyson, est-ce qu'on est capable de battre les autres?
Est-ce
qu'aujourd'hui on part pas troisième, clairement, de cette poule?
Non, tu pars pas troisième. Tout le monde part troisième, tout le monde part premier. Je te le dis, les Anglais peut-être un machin, mais on est à égalité avec les Argentins. Tu peux finir premier, tu peux finir second. Sincèrement, et tu peux ne pas te qualifier, c'est ouvert, on sera compétitif.
Je vois pas comment on peut dire qu'on part derrière les Argentins. Qu'on ait besoin de les craindre. Évidemment, parce que si tu arrives avec de l'arrogance, t'es mort. Mais par contre, dire de
n'oublions pas que lors de la dernière demi-finale, la dernière Coupe du Monde, ils sont demi-finalistes.
C'est une grande nation.
Pour
venir sur ce match, face à l'Argentine, décider de la suite de la compétition.
C'est le premier de l'équipe de France.
Il faut pas se mentir, il faut le gagner. Celui-là, si tu ne gagnes pas après, tu peux battre les Anglais, mais bon, ce sera compliqué.
Oui, mais ce sera très dur de sortir.
Très compliqué. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis de coach. Qu'est-ce qui manque à ton regard par rapport à ce qui s'est passé deux dernières années? Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour véritablement les battre?
De la confiance, certainement, parce que je prends toujours cet exemple. À la mi-temps du match contre les Gallois, qui aurait dit
dans le premier match du tournoi
que eux vont faire le grand chelem et que nous on allait faire un tournoi aussi moribond,
où les Bleus mènent largement à la mi-temps.
Sauf que rappelez-vous les deux essais qu'on prend. Et Johan qui échappe le ballon dans la butte, fait cadeau. Et à un certain moment, tout le monde terrorisé, peur. Donc ce qui manque, c'est tout simplement de la confiance.
C'est la peur de gagner, tu penses?
Oui, c'est ce qui manque, c'est de la confiance. Et la confiance, elle se transmet comment? Dans l'entraînement, dans la dureté, et surtout, effectivement, avec des gens qui s'engagent et qui passent devant. C'est ça que je dis. On a besoin de leaders, et pas de gens qui regardent. Non. Écoutez, la confiance, c'est oui, un coach, il peut te la donner, mais au bout de moment, c'est sur le terrain qu'elle se transmet. C'est de joueur à joueur.
Ça, c'est un président, il vient de réconcilier en deux phrases le physique de Dimeco avec le mental.
Bernard, justement, t'as le sens de la transition parce que je voulais te poser une question justement sur les leaders, des gens qui doivent prendre la parole. Et l'un qui a pris la parole quand ça n'allait pas bien, notamment lors de la défaite face au Fidji. Tu te rappelles cette image, Mathieu Bastaro qui avait réuni les joueurs, qui était là pour quand ça n'allait pas. La semaine qui précède France-Écosse au Stade de France, où il y a des problèmes en interne, apparemment Mathieu Bastaro a un rôle important. Ce leader-là ne sera pas à la Coupe du Monde. Toi, en tant que président, comment tu l'as vécu? Surpris ou pas déjà?
D'abord, j'ai appris la composition de l'équipe le matin et c'est très bien.
Ok.
J'ai pas à savoir l'équipe.
Donc tu as été surpris de son absence?
Je n'ai pas été surpris. Tu sais, quand on fait une équipe, si on fait tous le papier, il y a deux ou trois noms sur lesquels on n'est pas d'accord. On est d'accord sur 80%, après sur la différence. Mais comme je disais à Mathieu, je l'ai eu par message interposé, c'est comme ça. Voilà, on va pas y revenir dessus. Le staff a choisi en fonction de critères, etc. Et il faut se mettre derrière le staff et ce groupe maintenant et avancer. C'est la vie, ça. Voilà, Mathieu, bien sûr que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que ça m'affecte un peu, mais on s'en fout d'affecter le président. Ce qu'on veut, c'est gagner les matchs et faire une grande Coupe du Monde. Mais on m'enlèvera pas ce que j'ai vécu avec Mathieu Bastaro, notamment à Toulon. Les émotions. C'est quelqu'un que j'avais sélectionné. Il avait pas 18 ans. Pour aller jouer en Nouvelle-Zélande, malheureusement, il s'était blessé. Donc, j'ai une relation particulière avec ce garçon que j'aime beaucoup. Mais on s'en fout de ça. Maintenant, il n'est pas pris. Et il faut faire avec.
Juste sur la façon de faire, parce que lui, apparemment, a mal vécu le fait de ne pas être appelé. Prévenu, il a pris ça dans la presse avant. Est-ce que tu l'aurais appelé, toi, si tu avais été sélectionneur?
Mais peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'avais une façon de travailler, d'autres façons de travailler. Ça ne veut pas dire que j'avais raison. Chacun fait ce qu'il veut.
Mais après, la douleur est tellement grande que l'appeler ou pas l'appeler, ça change rien.
Vous avez l'air de dire tout votre et son contraire. Tu dis le contraire tout à l'heure.
La douleur, elle est là, la douleur.
Quand tu parles du Stade français, de la façon dont tu te comportes avec.
Sincèrement, si tu veux l'appeler, tu lui dis quoi? Tu lui dis ce que la presse dit. C'est-à-dire, tu viens pas, Mathieu. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas chez les bisounours, c'est pas sa maman.
Tu peux prendre les deux mains sur la presse.
Jacques Brunet, c'est pas sa mère. On est dans une relation d'homme qui serait respecte, eh bien, il fait question, il ne va pas l'appeler trois jours avant, je sais pas si je vais te prendre.
Et puis Jacques était gêné,
Et puis, il faut quand même aussi regarder les performances des autres. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire à Sofiane Guitoun qui fait une saison extraordinaire? Tu vas dire, non, toi, tu restes
après, Mathieu était vice-capitaine.
Mais d'accord, mais à bout d'un moment, il y en a d'autres aussi qui montent, qui font des gros matchs.
Mais il ne s'agit pas de dire qu'il est anormal de l'écarter. Il s'agit simplement de dire qu'on l'appelle. Encore une fois, on est dans la même discussion qu'on avait au début de l'émission.
Pas du tout.
Ah bon?
C'est la méthode, derrière
la moustache, il y a quand même un cœur.
Après, ce qui est important, quand même, je crois, sincèrement, c'est que 80 ou 85% des joueurs qui vont faire cette Coupe du Monde seront postulants pour 2023. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien aussi. Parce qu'une Coupe du Monde, ça donne beaucoup d'expérience.
Bernard,
c'est clair.
Mais Bernard, je suis pas d'accord avec
pour
toi.
Le coup,
c'est pour ça que tu sacrifies un joueur qui t'a apporté beaucoup par le passé.
Non, mais c'est pas pour ça que de sacrifier. Je dis, moi, le constat que cette équipe-là, beaucoup seront postulants pour 2023. Après, ils n'ont pas fait cette équipe en fonction de ça. Ils ont fait l'équipe pour gagner en 2019. Mais moi, je suis président de la fédération, je regarde, je me dis.
La question, elle est là parce que ton discours peut laisser entendre ça. Là, je vais m'adresser au président de la Fédération française de rugby, très sérieusement. Est-ce que l'objectif, c'est d'ores et déjà 2023?
Nous dit. L'objectif, c'est 2019. Et moi, en tant que président et un peu technicien, je regarde et je me dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont acquérir de l'expérience. Les Mbabamba, les Ntamag, je vais pas tous les citer. Les Lambé, ces gars-là, ça n'a rien à voir avec Mathieu Mastaro dans le groupe ou pas dans le groupe.
France-Argentine, les Bleus sont-ils en danger? Vous accueillez au 32-16. Il y a Guy Boll qui vous propose un sondage. Qui va gagner le 21 septembre, France-Argentine, les Pumas ou les chats domestiques? Vous pouvez voter sur Twitter. Vincent a composé le 32-16. Salut Vincent.
Bonjour messieurs.
Comment il va Vincent?
Bonjour. Ça va. Par contre, je pense qu'ils ont un petit souci là sur le débat avec vous.
Ah oui, vas-y.
Je vais être honnête avec vous. Cette Coupe du Monde, moi, ça me fait peur, cette phase de poule. Je vais m'expliquer pourquoi. On voit quand même deux équipes devant nous, qui sont devant nous, dans la cohésion, dans la structure. Depuis 4 ans, ils s'appuient quand même tous sur les mêmes joueurs. Nous, on voit qu'on a encore des cadres qui sautent. Vous l'avez cité avant, Mathieu Bastaro, qui est minime après, je viens le jeu de mouvement et compagnie qu'on a. À 20 minutes de la fin, faire entrer un mec comme ça pour dessouder en défense, c'est toujours utile. Après, on a un groupe, on a créé un groupe, mais pour 2023. On a des joueurs, comme Bernard l'a dit, là, parfois je suis pas d'accord avec lui, mais là par contre, je suis d'accord, 85% d'effectifs sont sélectionnés pour la Coupe du Monde. Oui, par contre, ce serait peut-être bien, maintenant, de partir quand même sur les sélections, comme les Anglais, comme les Argentins, comme les Irlandais, que quand un joueur fait un mauvais match, voilà, si on veut que ce soit un cadre, ça reste notre cadre.
Ouais, mais Vincent, le groupe précédent, j'entends, mais le groupe précédent ne gagnait pas, alors on fait quoi?
Mais le problème, c'est que le groupe précédent ne gagne pas. On a laissé combien d'années pour qu'une équipe se forme? Les Argentins, ça fait combien de temps?
Oui, non,
ils
sont
dans les chaînes et qu'ils gagnent que un ou deux matchs.
Tu parlais toi-même des cadres, il y avait quand même un sacré paquet de plus de 30 ans, quand même.
Les Anglais, ils ont eu un passage en vide. Ils sont quoi? Ils reviennent, ils gagnent, ils font double trois grands chelems. Là, ils sont dans les gros outsiders pour la Coupe du Monde.
Avec les mêmes joueurs? Avec les mêmes joueurs?
Après, troisième du tournoi. Oui, mais après, troisième du tournoi sous mauvaise. Après, depuis, on est en dessous de la troisième place. Après, moi, je suis désolé de vous le dire. Après, si on dit, est-ce qu'on a un groupe? Est-ce qu'on a un caisse type actuellement? Est-ce que quelqu'un est capable de dire, là, on part avec un caisse type avec l'équipe de France? Non. Par contre, les autres nations, à un ou deux joueurs prêts hors blessure, vous pouvez donner le caisse type des grosses nations.
Ils ont une génération de forme extraordinaire. Après,
c'est la génération qui est sortie au premier tour de la dernière Coupe du Monde.
C'est pas nous faire injure, pas du tout. C'est pas nous faire injure. C'est pas nous faire injure que dire qu'on est moins bon que l'Angleterre aujourd'hui. Ils ont des joueurs avec qui je cogais.
C'est pas faire injure, mais ça fait mal quand même.
Ils ont des meilleurs joueurs du monde à des postes que Bernard, non, à des postes clés. Donc nous,
ils ont une très très grosse équipe, l'Angleterre, ça c'est sûr.
On n'a pas des joueurs de ce niveau-là aujourd'hui qui nous tiennent la baraque.
Vincent, te remercie pour ton appel. Merci au 32-16. Je vous rappelle le rendez-vous, c'est le 21 septembre, c'est à 16h15. Ça sera bien sûr sur RMC. France-Argentine, le premier match de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Un premier match déterminant.